On passe à la data room. Vous êtes venus, l'un et l'autre, avec un chiffre que vous souhaitiez commenter. Isabelle, plus 19%, c'est la hausse du cours de l'argent, le métal, depuis le début de l'année. Et c'est vrai qu'on en parle assez peu parce qu'on est souvent focalisé sur l'or.
Oui, et l'or et l'argent ont historiquement été plutôt liés par une tendance assez commune, et c'est pas le cas depuis 2020 et depuis la pandémie. Alors 19% depuis le début de l'année, c'est même plus 25% depuis le mois de mars. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique, il y a même un relais qui s'est pris par l'argent, qui va beaucoup plus vite que l'or sur les derniers jours.
Et quel est le moteur ?
Alors le moteur, généralement les moteurs, c'était la baisse des taux d'intérêt, notamment pour les deux. Mais on a vu ces dernières années, et notamment avec l'or, que ça n'a pas été le cas. Non, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'argent est un des composants importants dans tout ce qui est lié à la transition énergétique, et notamment dans la construction des panneaux solaires, et notamment les panneaux solaires de nouvelle génération, mais également dans l'électronique. Et donc, c'est aussi un signal d'un redémarrage de l'activité et un redémarrage de la demande au niveau industriel. Et ça, c'est intéressant. Alors, bien sûr, ça a aussi une vocation de valeur refuge, beaucoup moins que l'or, mais le contexte est beaucoup plus favorable. Il y a une forme de rattrapage qui est en train de s'opérer, qu'on attend peut-être déjà, nous, en tous les cas, depuis un an et demi, c'était quelque chose qu'on regardait avec attention. Mais on voit que le redémarrage est en train de se matérialiser depuis ce début du mois de mars.
François, un commentaire ?
Oui, je pense que l'or fait valeur de refuge dans un contexte géopolitique qui se dégrade. Il y a aussi un changement là de positionnement du Sud global, et on le voit, les banques centrales qui font partie du Sud global se mettent à acheter quand même plus d'or que par le passé. Donc ça, c'est un nouvel acteur, alors qu'avant il n'y avait pas de grand mouvement.
C'est ce qui a expliqué cette décorrélation entre l'or et l'argent ces derniers mois.
Et ça, on peut penser que c'est un phénomène qui va probablement durer dans le contexte justement de fragmentation du monde, donc un regain d'intérêt pour l'or. Et puis bien sûr, l'or, quand il y a des périodes inflationnistes, c'est aussi intéressant. Donc voilà, donc il y a aujourd'hui des raisons, en tout cas de rester convaincu que l'or ne va pas s'effondrer dans les semaines qui viennent.
On passe à votre data room à vous, François Monnier. 2%, la majorité des pays de l'OTAN dépenseront 2% de leur PIB dans les dépenses militaires cette année.
Oui, on voit maintenant que c'est un peu la course à l'armement qui se matérialise. Il y a 10 ans, dans les pays on a 31 membres de l'OTAN, il y a 10 ans, il n'y en avait que 3 qui étaient capables de dépenser 2% ou plus de leur PIB en dépenses militaires. 3. On était à 11 l'année dernière, donc en 2023. On sera à 18, donc plus de la moitié en 2024. Donc on voit que maintenant, voilà, tout le monde a compris qu'il fallait se réarmer. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est une tendance de fond, c'est une tendance qui est lourde, et c'est une tendance qui va durer au-delà de 2024, qui va durer hélas en 2025, 2026, et probablement peut-être encore pendant une décennie.
Mais il y a un vrai impact boursier.
Donc il y a un impact boursier parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'univers de l'armement, l'univers de la défense offre de la visibilité et de la croissance dans un contexte où on ne sait pas si demain il y aura une baisse des taux, on ne sait pas demain s'il y aura une récession un peu plus forte que prévu en Allemagne. En France, le FMI vient encore de dégrader la croissance économique de l'Hexagone. Donc voilà, on recherche un petit peu des signes, enfin, ou des secteurs ou des thématiques qui offrent de la visibilité, et la défense fait partie maintenant de ces secteurs qui offrent une visibilité, et une visibilité qui offre de la croissance. Donc vous avez un double effet, et ce double effet, bien sûr, se matérialise dans les cours de bourse. On en parlait tout à l'heure, Rheinmetall valait 50 euros il y a 4 ans, là on est à 540 euros. On a Thales qui fonctionne très bien, on a BAE Systems au Royaume-Uni qui est recherché. Donc aujourd'hui, pour avoir un portefeuille équilibré, il faut avoir, je pense, quelques valeurs de croissance. Il ne s'agit pas de se dire on va avoir que des valeurs liées à l'armement. Il faut rester, bien sûr, diversifié. Mais pour moi, c'est une thématique incontournable aujourd'hui.
Ça a même entraîné, Isabelle, un changement de la notion d'investissement responsable il y a quelques années. L'armement, ça n'entrait pas dans les critères de l'investissement responsable. C'était pareil pour les énergies fossiles. Là, on a quand même changé notre fusil d'épaule. Alors, on va pas revenir complètement en arrière, mais l'armement, c'est une façon de défendre nos démocraties et nos libertés. Et en ce sens, certains, ou une majorité maintenant, le considèrent comme un investissement responsable.
Alors, pas qu'on peut, tout dépend de quels critères on prend
ça
derrière.
Ça reste effectivement particulier.
Oui, alors après, il y a une demande qui est en train de monter d'un certain nombre d'investisseurs, d'avoir aussi, pour ces raisons de perspective et de tendance de croissance. Après, aujourd'hui, on considère quand même que ça reste hors des critères qu'on a sur les critères ESG. Hein. On est quand même, que ce soit d'ailleurs l'énergie fossile ou
les fameux articles.
Ouais, voilà, exactement. Aujourd'hui, ça reste quand même en dehors. Par contre, il est vrai que sur la période plus récente, mais c'est lié à l'actualité, c'est lié à la montée et à la croissance qu'on a sur ces segments-là, il y a une demande qui émerge. C'est généralement pas des mêmes investisseurs.
Ouais. Mais ce qu'on peut voir depuis le début de l'année, c'est que si vous êtes un investisseur qui respecte vraiment tous les critères ESG, vous faites un parcours boursier détestable, puisqu'il fallait avoir du pétrole, il fallait avoir du véhicule thermique et il fallait avoir de l'armement. Donc la thématique ESG, en tout cas pour ce premier trimestre, voire ces quatre premiers mois de l'année, n'a pas été au rendez-vous par rapport, j'ai envie de dire, à l'investissement qui est classique. Alors bien sûr, il y aura des cycles, l'ESG n'a pas dit son dernier mot et il faut plébisciter ce type d'investissement pour donner du sens à ses placements. Mais force est de constater qu'au cours de ces quatre mois, ceux qui ont respecté à la stricto sensus les critères ESG, ont eu du mal à battre les indices.
Ouais. On a un indice, on a créé un portefeuille, BFM responsable, on en parle régulièrement dans cette émission. Et c'est vrai qu'en respectant les critères, on est à 3,8% de hausse depuis le début de l'année.
Oui, c'est compliqué de battre les indices. Ouais.
Alors après, c'est de toute façon des tendances de fond et de l'investissement long terme. Il faut bien le recalibrer sur cette perspective.
Oui, vous savez ce qu'on dit, l'investissement long terme, c'est du court terme qui a mal tourné.
Oui, alors c'est vrai en bourse, mais c'est vrai que pour le coup, là, on est sur des plans d'investissement qui sont des plans d'investissement très long terme. On parlait des énergies renouvelables tout à l'heure, à l'instant, avec le solaire. C'est pas des plans qui peuvent se faire sur des années, sur très peu d'années. Puis forcément, le contexte de taux n'a pas aidé non plus avec la perspective, même si on se pose des questions sur l'inflation, avec la perspective quand même de baisse de taux d'intérêt, ça va quand même aider le segment dans les années à venir.
François disait quelque chose d'intéressant, c'est que les crédits militaires, ce sont des crédits votés longtemps à l'avance, des investissements sur plusieurs années. Ça, c'est un peu le rêve pour les investisseurs d'avoir une visibilité comme ça sur tout un secteur. Quand on investit, non ?
Non, mais c'est clair. Après, c'est toujours une question de technologie. Dans les technologies, vous pouvez être leader à un moment et vous pouvez rater très rapidement une technologie juste après.
C'est vrai.
Merci beaucoup à tous les deux pour votre participation au club. Isabelle Hénos, responsable de la stratégie d'investissement chez BNP Paribas Banque Privée. Et merci à François Monnier d'avoir passé une heure avec nous en plateau, directeur évidemment de la rédaction d'Investir.